Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Deuxième temps de notre semaine que nous consacrons aux langues du monde. Hier, nous comptions ces langues qui disparaissent chaque jour dans le monde. Aujourd'hui, place aux questions graphiques et direction l'Asie centrale, d'Astana à Dushanbe. Une géopolitique des alphabets, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Les enfants connaissent le langage informatique. Ils connaissent l'anglais, ils maîtrisent rapidement l'alphabet latin. Nous devons maîtriser l'alphabet latin pour nous rapprocher des pays parlant les langues turques. Si on veut se rapprocher de l'Europe, de l'Allemagne, de la Turquie, là encore, l'alphabet latin est indispensable.
Lorsqu'une personne commence à apprendre l'alphabet latin, c'est un peu difficile les premiers temps. Mais si vous connaissez au moins les lettres, ce sera très facile à maîtriser.
Arabe, latin, cyrillique, les alphabets se sont succédés dans cette zone centra-asiatique au gré des conquêtes et des empires. Tout récemment encore, on l'entendait à l'instant, c'était au tour du Kazakhstan de s'engager sur la voie de la latinisation comme nombre d'anciennes républiques soviétiques de la région. Mais changer d'alphabet n'est ni neutre ni facile. Transcrire les sonorités dans une graphie qui soit adaptée et alphabétiser ensuite une population dans une nouvelle écriture, c'est imposer de grandes transformations. Alors quel est le bon alphabet pour les langues turciques ou indo-iraniennes d'Asie centrale? La latinisation en cours est-elle le signe d'une émancipation régionale ou au contraire de nouvelles influences? Enfin, comment on s'adapte les langues et les locuteurs à ces bouleversements réguliers? Voilà certaines des questions sur lesquelles nous allons nous pencher. Pour ce faire ce matin, nous avons évidemment invité un linguiste, Mourad Souleymanov. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant à l'École pratique des hautes études. Vos recherches portent sur le contact entre les langues turciques et iraniennes. Et puis également avec nous en duplex de Limoges, c'est Vincent Fourniaud. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup Vincent Fourniaud d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, historien de l'Asie centrale, directeur d'études à l'EHESS et puis auteur d'un ouvrage qui vient de paraître sur le sujet qu'on va évoquer ce matin, qui s'intitule « Transformation soviétique et mémoire en Asie centrale, de l'indigénisation à l'indépendance », paru aux Indes Savantes, tout juste il y a quelques jours. Tiens, je vais commencer avec vous Vincent Fourniaud. Donc, on l'entendait là, un petit extrait avec cette modification du côté du Kazakhstan. Il se trouve qu'en 2012, le président kazakh Nurultan Nazarbayev, au pouvoir depuis la chute de l'URSS, annonçait un grand plan de modernisation du pays, Kazakhstan 2050, avec un programme de développement qui allait de l'industrie à la sécurité, en passant par la fiscalité, la culture, etc., etc. Et parmi ces projets, justement, le changement d'alphabet, avec l'objectif de passer à l'alphabet latin à l'horizon 2025. Comment est-ce que vous comprenez cette décision? Et qu'est-ce qu'elle vous semble révéler, au fond, de la manière dont le président pense la place de son pays dans la région et dans le monde, Vincent Fourniaud?
C'est évidemment une décision politique, mais elle a une forte portée symbolique, je pense également. Le Kazakhstan est un des 5 pays de l'ex-Asie centrale soviétique, et passant l'alphabet latin, maintenant, c'est un des 3 pays qui aura adopté cet alphabet depuis l'émancipation, ou en tout cas depuis l'accès à l'indépendance de ces 5 républiques. Les 2 autres républiques qui conservent, enfin les 2 républiques qui conservent jusqu'à présent l'alphabet cyrillique sont le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Pour ce qui concerne cette décision du président Nazarbayev, je pense qu'il ne faut pas forcément en exagérer, si j'ose dire, l'agressivité. On peut parfois entendre parler de guerre des alphabets. En réalité, c'est une zone dans laquelle... dans le vivant même, dans le vécu même des habitants un peu plus âgés, il y a déjà eu des changements d'alphabet.
On va en parler.
Avec l'alphabet latin dans les années 30 et l'alphabet cyrillique dans les années, depuis en tout cas 1939. Et par conséquent, ce changement est effectivement un signe de modernisation, mais qui, encore une fois, finalement s'inscrit dans une certaine continuité de changement d'alphabet, puisqu'on parle ce matin notamment des alphabets.
On va revenir évidemment sur cette histoire, mais c'est pas tout à fait un hasard. Vous avez dit à la place d'indépendance, émancipation tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que cette latinisation de la langue kazakh, il y a aussi derrière un désir d'émancipation, et évidemment vis-à-vis de Moscou, Vincent Fournier?
Bien entendu, oui. Il y a un désir d'émancipation, mais encore une fois, c'est largement une émancipation symbolique. Mmh. Il faut se rappeler également que ces pays, certes, ont été dessinés et ont obtenu, ou en tout cas, ont trouvé à s'appeler Kazakhstan pour le Kazakhstan et Kyrgyzstan pour le Kyrgyzstan pour la première fois à l'époque soviétique. Cependant, ils ont une longue histoire que l'on pourrait qualifier presque de national, qui est d'ailleurs qualifié sans embâche là-bas de national. Il y a évidemment une vision de l'histoire un peu réductrice aujourd'hui qui est produite dans les écoles et les universités. Mais malgré tout, il est notable que il y a quand même une histoire longue de la kazakhité et de la modernité en même temps. Et cette histoire longue, elle a largement commencé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle avec le mouvement moderniste que l'on appelle parfois djadid, terme qui s'applique un peu moins bien pour les élites modernistes kazakhs que pour les élites modernistes du sud, de ce qui est actuellement par exemple l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Et une partie des modernistes en 1910 par exemple, ou en 1920, était déjà pour l'alphabet latin.
On va revisiter évidemment cette histoire ensemble. Si on s'intéresse, Mourad Souleymanov, à la question, j'allais dire, purement de la langue, Vincent Fournier nous disait cette latinisation, c'est au fond aussi un désir de modernisation de la langue kazakh. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement que de passer du cyrillique à l'alphabet latin? Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il y a des évolutions aussi à attendre pour la langue elle-même? Est-ce que c'est si facile de passer du cyrillique au latin? Est-ce qu'on peut complètement faire un glissement, j'allais dire, quasiment indolore? Ou est-ce que quand même ça force un certain nombre d'adaptations? Est-ce que ça transforme la langue elle-même, Mourad Souleymanov?
Alors, l'avantage des alphabets latins et cyrilliques, c'est que ce sont quand même des vrais alphabets, c'est-à-dire ce sont pas des alphabets consonantiques où on marque pas les voyelles, par exemple. Donc là, du coup, comme dans les années 30, quand on est passé de l'alphabet latin vers l'alphabet cyrillique, il s'agissait d'une simple translittération, en fait, de l'alphabet, c'est-à-dire...
Et là, ça sera la même chose.
Exactement.
Il y a quand même, on va être obligé d'ajouter des accents ça et là, il y a des caractères un petit peu spéciaux qui vont apparaître avec cette latinisation.
Effectivement, il y a eu, si je me trompe pas, il y a eu 3 projets différents pour latiniser l'alphabet, et donc les 2 n'ont pas été acceptés finalement, justement parce que il y avait des problèmes avec... avec les questions justement comment rendre un graphème cyrillique en latin, et dont par exemple dans le premier projet il y avait des propositions d'introduire des 10 graphes un peu comme en français où un C et un H donnent un CH, mais en fait ça n'a pas été accepté parce que finalement ils n'ont pas jugé pratique avoir des digraphes parce que ça élongeait énormément les textes et les mots.
Justement, sur le côté pratique de la chose, passer à l'alphabet latin, comment est-ce qu'on organise les choses? Est-ce qu'on va tout simplement, au fond, prendre une génération, là, à l'école, qu'on va totalement latiniser et puis progressivement, le pays va se latiniser de lui-même au fur et à mesure du temps? Est-ce qu'on prévoit des formations, y compris peut-être pour les plus anciens, qui n'ont absolument pas l'habitude du latin et pour qui ça risque d'être extrêmement difficile? Parce que derrière cette question, et aussi celle de l'inclusion sociale, culturelle de tous ces Kazakhs.
Je dirais pas que ça risque d'être difficile d'introduire le latin et de le populariser dans le pays, parce que les gens sont quand même au courant de l'existence de l'alphabet latin, et que
pour les plus anciens, ils connaissent absolument pas l'alphabet latin, ils ont même du mal à le déchiffrer.
Et quand même aux écoles secondaires, l'anglais, l'allemand étaient assez souvent appris comme une langue étrangère, et donc les gens ont quand même des connaissances de base sur les langues européennes, donc pour dire que c'est absolument quelque chose de du jamais vu, je dirais pas non.
Aucune résistance, Vincent Fournier, de la part de l'opinion? Il n'y a pas quand même un pan de la société qui se dit ça va être compliqué pour nous de passer à l'alphabet latin, Vincent Fournier?
Si, évidemment, il y a une résistance est peut-être un grand mot, mais simplement, effectivement, une appréhension, je dirais, de la part des plus âgés, comme vous le notiez. Je suis tout à fait d'accord avec les propos de M. Souleymanov en disant qui disait que l'alphabet latin n'est quand même pas complètement nouveau dans la région et dans le vécu, tout simplement, notamment des plus jeunes. Il peut y avoir une résistance aussi d'une partie de la population kazakhstanaise, des citoyens kazakhstanais d'ethnie russe, qui sont encore assez nombreux et qui, évidemment, comprennent et même peut-être exagère un peu la portée justement agressive, s'il fallait employer ce terme, du changement symbolique et pratique de l'alphabet cyrillique à l'emploi de l'alphabet latin. Je voulais juste rappeler en termes de lettres, puisque vous avez posé la question à votre autre invité à l'instant, que déjà dans la cyrillisation et d'ailleurs déjà dans la latinisation des années 30, nous avions un certain nombre de lettres spécifiques à chaque langue. Donc ça n'est pas exactement le clavier, par exemple, cyrillique du russe ne suffit pas pour écrire du kazakh en cyrillique. Il y a largement 5 ou 6 lettres qui diffèrent de celles du russe. Donc vous voyez, ce sont des adaptations auxquelles nous ne sommes pas habitués, parce que nous avons des données très stables depuis des siècles de ce point de vue-là, mais auxquelles encore une fois les populations de la région sont peut-être plus habituées que nous, et donc j'espère pour eux d'ailleurs que le cheminement vers l'alphabet, l'utilisation quotidienne de l'alphabet latin sera relativement aisé.
Oui, une certaine stabilité alphabétique, si je puis dire, qui est en réalité une exception. Vous le disiez, il y a eu effectivement du côté du Kazakhstan une première latinisation dans les années 30. En réalité, au début de l'ère soviétique, on pense effectivement utiliser l'alphabet latin pour l'ensemble des langues de cet espace. Et puis finalement, on va abandonner cette idée et choisir le cyrillique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce contexte et les motivations qui conduisent à envisager dans un premier temps l'alphabet latin, et finalement pourquoi le cyrillique s'impose, Vincent Fourniaud, l'historien de l'Asie centrale que vous êtes?
Alors, les conditions du passage à l'alphabet latin à partir de 1929, puis de l'alphabet cyrillique à partir de 1937 sont les deux fois éminemment politiques. La première fois, en 1928-29, à la suite du congrès de Bakou qui en avait décidé sur un plan, disons, intellectuel en 1926, eh bien, comme je vous le disais à l'instant, ce sont les modernistes, parmi les élites de ces régions, qui décident d'entrer dans une nouvelle modernité, justement, et choisir l'alphabet latin. C'est une époque, d'ailleurs, où l'alphabet latin est, disons, promu en Turquie, envisagé même en Iran, et donc ça n'est pas du tout exceptionnel, et ce n'est pas propre à l'Asie centrale, ni sur un plan régional, ni sur un plan pan-soviétique, dans la mesure où la latinisation, à cette époque-là, a touché, je crois, 60 langues.
Mais est-ce que ça veut dire soviétique. Que, vous dites que ça se faisait en Turquie, est-ce que précisément parce que ça se faisait en Turquie, alors on envisage...
Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Ça s'est d'abord fait, ça s'est d'abord décidé à Bakou en 1926 en Union soviétique, quand ça ne s'était pas encore décidé en Turquie.
Mourad Souleymanov, sur le plan linguistique, évidemment, cette Asie centrale, elle est un territoire absolument fascinant parce qu'elle est située à la croisée de sphères turco-mongoles, iraniennes, arabes, russes, voire même peut-être chinoises si on va un petit peu plus loin. Et finalement, les dynamiques linguistiques sont aussi le reflet de ces avancées, de ces reculs, de ces différentes influences de la région. Au-delà des alphabets, faisons un petit point, Mourad Souleymanov, sur le paysage linguistique de la région. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les groupes, les familles linguistiques qu'on a aujourd'hui dans cette Asie centrale?
Oui, alors la famille la plus grande, ce sont les langues turciques, qui sont des langues officielles dans 4 sur les 5 pays de l'Asie centrale ex-soviétique. Puis il y a la famille, enfin le groupe iranien, notamment représenté par le Tadjik. Le russe est encore parlé. Il y a encore des régions au Kazakhstan où les locuteurs de russe font majorité de la population. Ensuite, il y a aussi des petits groupes de locuteurs d'allemand et même d'arabe en Ouzbékistan et au Tadjikistan.
Et il n'y a jamais eu dans l'histoire de cette région-là un moment où une langue dominait l'ensemble de ce territoire ?
Alors, au Moyen-Âge, il y avait une langue qui est connue aujourd'hui comme le Tchagatai, qui était un peu la langue littéraire de toute cette zone. C'est-à-dire, c'était une langue qui servait justement à la correspondance entre les locuteurs de différentes langues. Et aujourd'hui, donc la tradition de Tchagatai n'existe plus. Mais la langue la plus apparentée au Tchagatai qui est parlée en Asie centrale aujourd'hui, c'est l'ouzbek moderne, c'est l'ouzbek littéraire.
Vincent Fourniaud, là encore, si on refait un petit peu d'histoire, et peut-être qu'on revient sur le début de la période soviétique, vous nous avez rappelé comment, effectivement, au début, on envisage d'utiliser l'alphabet latin, et puis finalement, c'est l'alphabet cyrillique qui va être retenu. Au début de cette période soviétique, Moscou va créer dans cette région d'Asie centrale un certain nombre de républiques fédérées. Est-ce qu'à l'époque, on découpe ces républiques, ces territoires, aussi en fonction de considérations linguistiques, Vincent Fourniaud?
On les découpe en fonction de considérations ethno-linguistiques. Mais concernant le découpage qui a commencé en 1924, le découpage soviétique, sur le fait qu'il y avait eu tout un travail intellectuel et de communication, comme on dirait aujourd'hui, de la part d'élites modernistes et djadides, non seulement en Asie centrale d'ailleurs, mais également chez les Tatars ou au Caucase, notamment en Azerbaïdjan justement. Et par conséquent, l'idée national autour d'un groupe ethno-linguistique existait et était fortement défendu par la partie de ces élites modernistes qui étaient restées en URSS, c'est-à-dire la majorité. Un certain nombre de ces activistes, disons, avaient choisi l'émigration. Mais en 1939, ça n'est pas l'alphabet cyrillique qui a été retenu, il a vraiment été imposé, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, une décision éminemment politique, celle d'une certaine homogénéisation de l'URSS. Pardon. Ceci dit, personnellement, moi je ne vois pas du tout en quoi finalement, j'ai toujours un peu de mal à comprendre la force symbolique de l'alphabet, parce que le kazakh en alphabet cyrillique, ça reste tout à fait du kazakh, et l'azéri en alphabet cyrillique, ça reste tout à fait de l'azéri, et quand vous êtes russe, donc et russophone, que vous connaissez votre alphabet pour le russe, en fait, vous ne déchiffrez absolument rien en alphabet cyrillique du kazakh. De même que nous, les francophones, nous ne lisons pas le danois ou le norvégien naturellement. Donc, c'est vrai que c'est une zone où les alphabets ont eu cours à différentes périodes, on leur prête des symboles extrêmement forts, et je suppose que pratiquement, ce serait très traumatisant de voir tout d'un coup l'alphabet, le français écrit en alphabet arabe ou en alphabet cyrillique, j'en conviens. Ceci dit, ça ne reste que la porte d'entrée vers une langue que, quand on la connaît pas, évidemment, on ne peut pas la déchiffrer.
Mourad Souleymanov, sur la manière dont on a utilisé la considération linguistique au moment du découpage de ces républiques fédérées du RSS.
Alors, c'est une question effectivement très intéressante, parce que les autorités eux-mêmes étaient assez perturbées par la richesse ethnographique, ethnique et linguistique, notamment par cette région dans les années 20, parce que le principe d'ethnie n'était pas tout à fait pertinent pour cette région, justement parce que la définition d'une ethnie dans le sens européen n'était pas le cas en Asie centrale. Les gens n'étaient pas du tout gouvernés par le principe linguistique pour se distinguer. Un groupe ne se distinguait pas d'un autre groupe par le principe linguistique. C'était plutôt le principe religieux, le principe des tribus, d'appartenance sociale, etc. Et c'est pour cette raison, il était assez difficile de découper justement ces territoires, de se décider où une ethnie, l'ère d'une ethnie finissait et commençait l'ère d'une autre ethnie, etc. Donc finalement, il y avait des décisions qui ont été prises de façon un peu arbitraire. Notamment, on voit ça en Ouzbékistan aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ouzbek, les dialectes de cette langue. En fait, les dialectes de cette langue appartiennent à deux branches différentes de la famille turcique, finalement. Donc ils ont été un peu appelés ouzbeks parce qu'ils se sont retrouvés au sein d'un seul pays, mais finalement est-ce qu'ils sont vraiment apparentés de la même façon dont on enfin quand on dont c'est le cas quand on pense au dialecte, je dirais pas.
Vincent Fourniaud, à cette époque soviétique, est-ce que derrière la politique linguistique, il y a aussi autre chose et peut-être aussi des considérations religieuses ? Si je le dis de façon directe, est-ce que derrière cette politique linguistique, il y a aussi peut-être le désir de la part des autorités soviétiques de faire reculer la pratique de l'islam ?
Ah oui, ben ça c'est tout à fait évident, mais
justement, comment est-ce qu'on l'utilise ? Comment est-ce qu'on l'utilise ?
Oui. Oui, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille essentialiser, par exemple, le souhait de faire reculer la pratique de l'islam, dans la mesure où le pouvoir soviétique, ouvertement, avait le souhait de faire reculer les pratiques de toutes les religions,
bien sûr,
à commencer par l'orthodoxie.
Oui, oui. Et par mais donc, derrière la politique linguistique, c'est aussi un outil de déconfessionnalisation. La question est de savoir comment ça s'illustre, en particulier dans cette zone-là, et en particulier peut-être avec l'utilisation ou pas des alphabets.
Oui, c'est une bonne question. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement un des outils. Encore une fois, quand on ne connaît pas du tout la langue kazakh, eh ben, ou la langue ouzbek, évidemment, on ne la comprendra pas, même si elle est en alphabet latin ou en alphabet cyrillique. Mais c'est un des outils symboliques, tout à fait, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il faut absolument, à mon avis, remettre en perspective, c'est que l'Asie centrale, au moment de sa latinisation, l'Asie centrale au moment de sa cyrillisation, l'Asie centrale aujourd'hui même au moment de sa large latinisation de nouveau, en tout cas jusqu'en 91, elle fait partie d'un ensemble, l'Union soviétique, et les phénomènes que l'on observe en Asie centrale sont et chronologiquement dans les mesures mêmes qui sont prises, on les retrouve sur l'ensemble du monde soviétique. Comme je vous disais tout à l'heure, au moment de la latinisation, c'est plus de 60 langues qui sont latinisées. C'est pas seulement le kazakh ou l'ouzbek.
Mourad Souleymanov, parlons un peu du Tatarstan. Parmi les républiques de l'actuelle République fédérale de Russie, il y a le Tatarstan qui est composé à peu près de 53% de Tatars et d'environ 40% de Russes. Et il se trouve que depuis novembre 2017, l'apprentissage de la langue tatar, qui est une langue donc turcophone, qui s'écrit pour le coup en cyrillique, est devenue facultative. Et parallèlement à cela, on a des heures d'apprentissage de la langue russe qui ont été augmentées. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette décision ? Est-ce qu'il faut voir l'influence, peut-être le désir peut-être de Moscou de contenir des particularismes culturels et linguistiques tatars, et pour quelles raisons ?
Je pense que ça fait partie de la politique de centralisation qu'on observe actuellement en Russie, avec laquelle justement vient ce mouvement d'essayer de peut-être limiter un peu le degré d'autonomie politique peut-être de certaines régions du pays, mais dans le cas de Tatar est aussi intéressant parce que le Tatar fait partie des langues qui sont parlées à l'intérieur de la Russie, qui ont essayé de passer vers l'alphabet latin justement aussi depuis la chute de l'Union soviétique.
Et pourquoi n'ont-ils pas
ça n'a pas été possible justement parce que selon la loi russe sur les langues qui sont parlées dans le pays, toutes les langues littéraires du pays, c'est-à-dire qui sont parlés en Russie et qui sont enseignés aux écoles publiques en Russie, doivent absolument être notés en alphabet cyrillique.
Voilà. Mais on ne peut pas passer à l'alphabet latin, c'est pas possible.
Au moins pas de façon officielle.
Vincent Fourniaud, comment est-ce que vous analysez, vous, justement, ce changement de politique linguistique du côté du Tatarstan ? Et peut-être de façon plus générale, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a toujours, j'allais dire, puisque c'était le cas du côté à l'époque soviétique, il y a toujours aujourd'hui une forme d'utilisation de la langue pour garantir une certaine unité nationale. Est-ce qu'il y a au fond des points communs entre la politique linguistique de l'époque soviétique et celle telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par les autorités russes, Vincent Fourniaud ?
Oui, bien sûr, il y a une continuité et il est évident que les pouvoirs locaux, on le voit par la latinisation au Kazakhstan actuellement, on le voit par l'interdiction de la latinisation par le pouvoir russe au Tatarstan, tiennent compte de la force symbolique des alphabets, c'est tout à fait évident. Ceci dit, l'URSS était une fédération, la Russie est actuellement une fédération et nous parlons donc de problèmes, de pression éventuellement, mais rappelons-nous quand même qu'il y a s'il y a pression et s'il y a problème, c'est qu'il y a gestion publique de ces questions. Il y a gestion étatique de ces questions. Et donc, ce sont des fédérations, puisque la Russie est encore une fédération, où il y a une reconnaissance publique de la diversité. Par exemple, en Turquie, il n'y a absolument aucune reconnaissance publique de la diversité, et ça a été un pays extrêmement oppressif sur le plan de la diversité ethno-linguistique. Par conséquent, il y a, je crois, cette dimension à prendre en compte quand on parle et quand on analyse les pressions, les souhaits de cohérence ou les luttes qui se développent aujourd'hui autour de ces questions, par exemple, d'alphabet.
On reviendra dans quelques instants sur le cas turc. Le kazakh, c'est une langue d'origine turque, donc avec une certaine proximité avec d'autres langues de la région, comme l'ouzbek et le turkmen. Et il se trouve que les deux pays qui sont associés, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, ont opté, eux, pour l'alphabet latin dès la dislocation de l'URSS en 1991. C'est allé beaucoup plus vite que pour le Kazakhstan, qui vient là juste de faire son passage. Pourquoi ça s'est fait aussi vite là-bas, Vincent Fourniaud? Est-ce qu'il y avait au fond des conditions plus propices justement à ce basculement extrêmement rapide?
Alors, je pense que au Kazakhstan, le souhait existait depuis longtemps, mais ça s'est fait beaucoup plus rapidement en Ouzbékistan et au Turkménistan pour des raisons, encore une fois, politiques. Ce sont deux pays, Ouzbékistan et Turkménistan, qui n'ont pas de frontières avec la Russie, contrairement au Kazakhstan. Ce sont deux pays où la proportion de citoyens d'origine russe, donc russophone, était bien moindre, même si elle était assez importante en Ouzbékistan, mais était bien moindre qu'au Kazakhstan. Et le président d'Azerbaïev au Kazakhstan a toujours veillé à ce que les relations avec la Russie soient bonnes et l'équilibre intérieur, en quelque sorte, soit bon. Il faut se souvenir aussi, en contrepoint de ce qui s'est passé justement au Turkménistan et en Ouzbékistan, pardon, que le Kazakhstan en 1991 avait encore une minorité de Kazakhs dans sa population, parmi ses citoyens. La majorité de la population était composée de non-Kazakhs, tous kazakhstanais certes, mais de non-Kazakhs, et notamment un très important groupe de kazakhstanais russes. C'est probablement une des raisons qui font qu'il a attendu, même si l'idée, je pense, était depuis longtemps inscrite dans son esprit et dans celui de d'autres d'intellectuels, pardon, dans la mesure où, encore une fois, comme je vous le disais, je pense que c'est une idée quand même importante, le discours sur la modernité n'a pas été seulement apporté par l'URSS, il a une dimension endogène avec ses djadides et autres modernistes auxquels j'ai fait allusion déjà plusieurs fois et qui ont été très très actifs entre 1880 et 1917.
Mourad Souleymanov, est-ce qu'aujourd'hui ces deux pays, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, ont totalement basculé vers l'alphabet latin? La transition est achevée aujourd'hui, on est quasiment plus, pas tout à fait 30 ans, mais quasiment.
Pour le Turkménistan, oui, c'est sûr. Pour l'Ouzbékistan, enfin, je me suis renseigné récemment et apparemment, le cyrillique coexiste avec le latin un peu de façon demi-officielle. C'est-à-dire, on tombe assez souvent sur des formulaires qui sont encore publiés avec... qui montre justement que voilà l'alphabet cyrillique existe encore. Voilà. Mais sinon, au niveau officiel, oui, c'est normalement c'est l'alphabet latin qui domine.
Vincent Fourniaud, parlons un petit peu de la Turquie en 1923, donc après l'effondrement total de l'Empire ottoman, l'avènement de la République de Turquie, son fondateur Atatürk décide de passer de l'alphabet arabe à l'alphabet latin pour écrire la langue turque. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce moment, comprendre les motivations de l'époque? Est-ce que là aussi, il faut parler de modernisation comme on vient de le faire sur le Kazakhstan aujourd'hui? Est-ce que ça s'inscrit aussi peut-être dans un projet de sécularisation, je mets des guillemets, parce qu'évidemment, on parle toujours de la laïcité à la turque, mais elle n'a évidemment rien à voir avec la laïcité à la française. Mais est-ce qu'il y a aussi un petit peu de ça dans ce passage de l'alphabet arabe à l'alphabet latin pour ce qui concerne la Turquie, Vincent Fourniaud?
Oui, enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Turquie, mais je pense que vous avez en effet utilisé les mots-clés, à savoir modernisation, sécularisation, également probablement le resserrement, si j'ose dire, d'une idée nationale autour de l'élément turc. Contre même peut-être l'élément ottoman impérial, puisque comme tout empire, l'empire ottoman a été peuplé de différentes nationales. Enfin, j'utilise un terme inadéquat puisqu'on dit nationalité en URSS, certainement pas en Turquie ni dans l'empire ottoman, mais en tout cas de différentes nations, de différents millets, et donc faire de l'élément turc avec son alphabet latin l'élément moteur de ce qui devait être la nouvelle Turquie, la République de Turquie, dont, si je me souviens bien, la latinisation officielle ne date pas de 23 mais de quelques années après.
Oui.
Donc en fait, et surtout ne pas penser que la latinisation dans l'URSS, encore une fois, ce n'est pas seulement dans ces républiques turciques, enfin parlant des langues turciques, mais dans l'ensemble de l'URSS qu'il y a eu cette latinisation. Et donc ne surtout pas croire qu'elle vient de Turquie, absolument pas. Par contre, la Turquie et l'URSS sont ensemble dans un moment historique où beaucoup de nations cherchent à, en effet, utiliser l'alphabet latin.
Si on en vient à l'époque contemporaine et qu'on reste dans cet espace turc, Vincent Fourniaud, beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui qu'il y a chez Erdogan le désir de renouer avec l'impérialisme ottoman, qu'il construirait au fond un nouvel imaginaire néo-ottomaniste. Quelle place justement la langue tient dans cet imaginaire-là? Est-ce qu'il essaye d'utiliser au fond la langue turque pour justifier une forme de proximité peut-être avec d'autres peuple de la région et reconstruire un nouvel imaginaire impérial?
Alors, l'Empire ottoman ne s'est jamais étendu jusqu'à l'Asie centrale. Il y a toujours eu l'Empire perse entre les deux. Et par conséquent, c'est une des très grandes différences entre l'Asie centrale et le Caucase. L'Empire ottoman a toujours été très éloigné géographiquement de l'Asie centrale. Et jamais il n'y a eu un moment politique commun, à aucun moment. Ça, c'est la première chose.
Vous avez tout à fait raison. Ça ne veut pas dire que Erdogan ne chercherait pas à reconstruire, pourquoi pas, a posteriori, l'histoire et à faire passer l'idée que finalement la langue turque serait peut-être la mère de toutes les autres langues de la région.
Mais
parce que c'est des choses qu'on a parfois entendues dans ses discours. Alors, tout à fait d'accord pour dire que ça ne correspond pas peut-être à l'histoire. Il n'empêche que c'est quand même dans son discours. Il y a là peut-être une forme d'instrumentalisation politique sur laquelle on peut s'attarder un instant, Vincent Fournier.
Bien sûr, il y a une instrumentalisation politique évidente qui n'est pas non plus très neuve en Turquie. La République de Turquie, justement, depuis sa fondation, et notamment par l'alphabétisation, le développement de l'éducation, etc., a très fortement insisté, toujours, pour expliquer quel était l'état... où il y avait, où on parlait une langue turcique qui était le plus important parmi les autres nations et populations qui parlaient des langues turciques, et donc a toujours imaginé qu'elle était leader dans le monde turcique. Et je dis bien turcique et non pas turc, car justement il y a eu une énorme instrumentalisation politique de ce simple adjectif turc, et les publications turques dans les années 80, par exemple, encore ne disaient jamais les Kazakhs ou les Ouzbeks, mais toujours les Turcs ouzbek ou les turcs kazakhs, pour bien montrer non seulement la cohésion de l'ensemble, surtout si cet ensemble était mené vers l'avenir par la Turquie. Donc quand Erdogan dit ça aujourd'hui, en fait il est dans une tradition, il a appris ça lui-même à l'école.
Murat Suleymanov, est-ce qu'il y a effectivement chez Erdogan peut-être l'ambition de faire passer cette idée que les langues turciques dérivent peu ou prou de la langue turque, et est-ce que c'est le cas? Le linguiste, que dit-il sur ce point?
Alors, je peux pas vous dire ce qu'on pense, monsieur Erdogan, mais c'est vrai qu'effectivement, en Turquie, depuis très longtemps, il y a eu, dans l'académie turque, cette notion comme quoi, oui, les langues turciques sont, ne sont que des dialectes d'une seule langue, la grande langue turque, et que assez souvent dans la littérature scientifique en Turquie, on croise justement des expressions comme oui le turc ouzbek et le turc kazakh, comme l'a dit Vincent tout à l'heure.
Mais ça ne correspond pas à la réalité.
Alors bon, il s'agit effectivement des langues turques.
Si on fait une généalogie, est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs ?
Ils sont effectivement issus d'une langue mère, c'est pas le turc moderne, c'est pas du tout le turc qu'on parle aujourd'hui en Turquie, qui est la langue mère de toutes ces langues-là.
Encore un mot, Vincent Fournier, je vous en prie, et puis ensuite on parlera peut-être du cas ouïghour, mais je vous en prie, Vincent Fournier.
Si je peux me permettre une petite anecdote, justement,
on adore les anecdotes,
que je rapporte parce que j'en ai entendu parler. Les Turcs ont imaginé en 1991 s'imposer en Asie centrale ex-soviétique, et même, paraît-il, c'est là où ça reste une anecdote, paraît-il, sont arrivés les premiers temps, vraiment les premières conférences ou les premiers contacts interétatiques sans traducteur. Et puis évidemment, ça a été un échec.
Les Ouïghours, alors cette communauté turcophone chinoise du Xinjiang, on est à l'ouest de la Chine, une minorité particulièrement discriminée, réprimée par les autorités de Pékin parce qu'elle ose demander des droits culturels et linguistiques spécifiques. On va écouter d'abord le témoignage d'une femme, justement, Ouïghour.
Je ne me rendais pas compte de la colonisation des Chinois. J'ai grandi au milieu d'eux. Et je croyais que le parti nous avait libérés et n'était là que pour nous aider. Mais c'était un lavage de cerveau. On était juste bon qu'à obéir. Ce n'est qu'après les émeutes de juillet 2009 que j'ai compris que nous n'étions pas des Chinois à part entière. À l'époque, j'étais institutrice. Le proviseur de l'école a réuni tous les professeurs ouïghours. Il nous a dit, vous, les Ouïghours, vous n'êtes que des moustiques. N'oubliez jamais que d'une seule main, nous pouvons vous briser.
Voilà, extrait d'un documentaire, Leçon de propagande chinoise en zone interdite, qui avait été diffusé en 2014. Vincent Fournier, les Ouïghours, c'est l'une des 56 minorités reconnues par Pékin. La langue ouïghour est même une langue officielle au Xinjiang. Est-ce qu'il y a des attaques, des atteintes des autorités chinoises à l'égard de cette langue en particulier? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'elle se manifeste, Vincent Fournier?
Ah oui, il y a des attaques très fortes et vraiment très regrettables. La situation au Xinjiang est devenue vraiment extrêmement tendue et très
sur la langue en particulier, sur la langue en particulier.
Et sur la langue en particulier, alors mes informations ne sont pas forcément extrêmement récentes sur mais je sais
il y a beaucoup de mal, on a beaucoup de difficultés, il y a
très peu d'étudiants.
Ouais, il y a très peu de journalistes qui peuvent pénétrer dans le Xinjiang,
oui,
évidemment,
tout à fait.
La raison pour
mais
laquelle
pour avoir
les informations
échangé
sont
avec
difficiles.
Tout à fait. Merci de m'en excuser à l'avance avec des étudiants ou des étudiantes ouïghours de Paris, par exemple, le ouïghour est de moins en moins présent dans le système d'enseignement et que la volonté de sinisation est ouvertement imposée, avec notamment la suppression, non pas totale, mais en tout cas l'amoindrissement de la présence du ouïghour dans les écoles. Par exemple, une collègue ouïghour qui vit à Paris me disait encore récemment qu'elle a en gros 50 ans, qu'elle avait fait toutes ses études en ouïghour encore, et que évidemment aujourd'hui c'est absolument impossible.
Mourad Souleymanov, on parle aujourd'hui des alphabets. Dans la langue ouïghour utilisée dans le Xinjiang chinois, on utilise quel alphabet ?
Officiellement, c'est l'alphabet arabe. Mais il y a eu plusieurs propositions d'adopter l'alphabet latin, et en fait il y avait des périodes où l'alphabet latin a été utilisé de façon officielle, mais après, pour des raisons de pratique et peut-être aussi de politique, ça a été changé à chaque fois. Et donc depuis, si je ne me trompe pas, depuis 1980, c'est l'alphabet arabe qui a été utilisé officiellement.
Bah alors venons-en effectivement à ce volet-là, parce qu'effectivement du côté des Ouïghours, on a changé plusieurs fois d'alphabet. Mais avant d'arriver à l'alphabet arabe, Vincent Fournier, dans un premier temps, c'était dans un alphabet très particulier qui était dérivé du sogdien. Alors je ne le savais pas, moi je l'ai appris, qui est une langue moyenne iranienne parlée au Moyen Âge. Et puis aux alentours de l'an 1000, on va se mettre à utiliser l'alphabet arabe sous l'effet évidemment de la conversion progressive de ces populations à l'islam. Et puis 1956, on abandonne l'alphabet arabe pour passer au cyrillique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Vincent Fournier?
Ça n'a pas duré longtemps. On est également passé à l'alphabet latin.
Oui, trois ans après.
L'utilisation, voilà, du cyrillique. Et puis, cet alphabet arabe, mais avec les voyelles qui sont notées. Donc, c'est un alphabet arabe particulier. Je le dis simplement pour sensibiliser les auditeurs au fait que ces alphabets, la particularité des alphabets, le fait que les alphabets sont bien, soit arabes, soit latins, soit cyrilliques, mais avec des lettres particulières, montre bien que dans cette zone, on a, si j'ose dire, l'habitude de l'adaptation à l'alphabet, mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour penser que de changer complètement d'alphabet, passer du cyrillique kazakh au cyrillique au latin kazakh aujourd'hui, évidemment, c'est un, pour ce qui concerne
surtout en 3 ans, hein,
c'est un grand choc.
Surtout en 3 ans, 56, on abandonne l'alphabet arabe pour passer au cyrillique, et puis 59, 3 ans après, on abandonne le cyrillique pour reprendre l'alphabet latin. Et dernier changement qu'évoquait Mourad Souleymanov, début des années 80, on repasse à l'alphabet arabe. Pour quelles raisons politiques est-ce qu'on passe à l'alphabet arabe, Vincent Fournier, à ce moment-là ?
Ah, écoutez, c'est aussi probablement pour, revenir vers une authenticité ouïghour et pour d'une certaine façon, si j'ose dire, siniser. Évidemment, c'est une sinisation par l'intermédiaire d'un autre alphabet, mais c'est l'alphabet, si vous voulez, local qui a toujours été utilisé. Donc, ça donne quand même une cohérence chinoise, si j'ose dire, à la mesure, alors que précisément l'alphabet latin, c'est l'alphabet international. C'est une des raisons probablement. Rappelons-nous aussi que la Chine n'est pas un État fédéral.
Disons quand même, pardon,
je
fais une parenthèse, Vincent Fournier. Disons que quand même à l'époque, quand on passe à cet alphabet arabe, c'est une revendication des élites musulmanes ouïghours elles-mêmes.
Donc, tout à fait. Donc, et ça. Ce qui veut dire que les élites musulmanes ouïghours, avaient encore d'une certaine manière l'oreille du pouvoir politique, ce qu'elles n'ont plus du tout.
Quand on regarde les choses aujourd'hui, Vincent Fourniaud, on voit que les autorités de Pékin, on l'a dit déjà un peu, sont pas franchement conciliantes avec les populations ouïghours. Qu'on pourrait imaginer, par ailleurs, il y a la question de la langue qu'on a évoquée, mais il y a aussi, on le voit, cette dynamique démographique qui est à l'œuvre avec cette politique de Pékin qui vise à favoriser l'installation des Han dans la région pour faire baisser la proportion démographique des populations locales. Est-ce qu'on pourrait imaginer tout simplement que Pékin décide de repasser à l'alphabet cyrillique dans l'écriture ouïghour, simplement pour affaiblir l'identité culturelle ouïghour ? Ou même, pourquoi pas, du côté du latin, en disant, voilà, on va moderniser votre écriture ?
L'alphabet cyrillique, évidemment pas du tout, parce que précisément dans la portée symbolique, ça n'aurait pas de sens de la part de Pékin. L'alphabet latin, peut-être, pourquoi pas, ça effectivement pourrait encore une fois affaiblir cette... Vous donnez d'ailleurs peut-être une idée.
Je ne pense pas qu'ils aient besoin de moi pour avoir une quelconque idée pour réprimer les Ouïghours, hein, malheureusement.
Voilà. Mais rappelons simplement à propos de la Chine, encore une fois, que ça n'est pas un État fédéral, et contrairement à l'URSS, qui l'avait été, contrairement à la Russie actuelle, qui l'est, et par conséquent, les pouvoirs régionaux disposent de moins d'institutions pour se défendre éventuellement que ça ne l'a été par exemple dans le cas de l'Union soviétique fédérale. Et rappelons aussi juste très rapidement que en tant qu'État fédéral par exemple, le démembrement de l'URSS selon les frontières soviétiques elles-mêmes s'est passé très facilement en 1991 et que les autres républiques qui n'étaient pas fédérales mais qui avaient un statut de république autonome comme la Tchétchénie et autres, justement ont été considérées comme par la communauté internationale comme faisant partie intégrante des territoires des ex-républiques fédérales dans lesquelles elles se trouvaient.
Évidemment, la forme des États a beaucoup à voir avec ces politiques linguistiques. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, à la Serbie maintenant, puisqu'en septembre 2018, le gouvernement serbe annonçait son intention de modifier la loi sur les langues et de créer un conseil de la langue serbe pour promouvoir l'alphabet cyrillique dans le pays. Les autorités craignent que l'autre alphabet officiel du pays, le latin, donc, ne supplante le cyrillique dans les usages de la vie courante. Depuis quand, pourquoi les autorités serbes craignent-elles une disparition du cyrillique en Serbie ? Que nous dit aussi cette inquiétude des tensions nationalistes qui traversent non seulement la Serbie, mais aussi la Croatie, la Bosnie ou le Monténégro ? On a posé la question à Xenia Djordjevic-Leonard, maîtresse de conférence en sciences du langage à l'université de Montpellier 3. Elle a notamment dirigé l'ouvrage « Les minorités invisibles, diversité et complexité ethno-socio-linguistique ». Elle est au micro de Mélanie Chalandon. Écoutez.
La question question épineuse de l'usage des deux alphabets en Serbie, elle a commencé à se développer dans les années 90, c'est-à-dire au moment des conflits qu'ont connu les Balkans. À l'époque, l'idée qui était défendue par les politiciens était que l'alphabet cyrillique commençait déjà à être sérieusement en danger. En réalité, d'après les linguistes et les sociolinguistes serbes, il n'en est rien. Les deux alphabets étaient utilisés dans l'administration, dans l'école, dans la vie de tous les jours. Mais l'alphabet cyrillique était considéré comme un alphabet, on va dire, davantage serbe, plus encore que l'alphabet latin, qui était donc un alphabet souvent rattaché à la variété croate de l'ancienne langue commune serbo-croate. Et donc, pendant un certain nombre d'années, ces débats ont perduré. Et aujourd'hui, donc en 2018, en effet, la question a été réouverte lorsque un débat sur la modification de la loi sur l'emploi des langues et des alphabets a repris, donc avec toujours la même idée, défendre davantage l'alphabet cyrillique au détriment de l'alphabet latin.
Vous dites que le cyrillique n'est pas réellement en danger d'extinction ou en tout cas d'une perte de vitesse dans son usage, mais alors pourquoi les autorités s'inquiètent-elles? Est-ce qu'il faut en déduire qu'il y a, à travers la défense du cyrillique, peut-être un autre projet, à savoir une dimension nationaliste, identitaire, de promotion de cet alphabet dans un contexte régional où toutes les anciennes entités de l'ex-Yougoslavie tentent, elles aussi, voilà, d'affirmer, de promouvoir leur identité nationale?
Oui, oui, c'est tout à fait ça. En fait, les raisons sont surtout politiques parce que dans le discours officiel, parfois alarmiste, on dit l'alphabet cyrillique en danger, ce qui est peut-être en partie vrai aussi, mais en aucun cas alarmant. Et à mon avis, légiférer dans un domaine qui est très sensible, donc dans les Balkans, n'est pas forcément une bonne solution, sauf en cas d'un danger véritablement avéré. Parce que qui dit législation dit également obligation, encore punition si cet usage n'est pas respecté. Alors, à mon sens, il n'y a aucune raison d'aller vers cela. L'usage fait déjà assez bien les choses, puisque les Serbes, tous les Serbes, maîtrisent bien les deux alphabets. Alors, la constitution qui est toujours en vigueur, a déjà mis l'accent sur le cyrillique, sans interdire l'alphabet latin, ça il faut le rappeler, enfin, l'alphabet officiel et l'alphabet cyrillique, mais l'alphabet latin est également, il est également possible d'utiliser l'alphabet latin en accord avec la loi, etc. Et je pense que c'est déjà une protection de l'alphabet cyrillique, l'école en est une autre, puisque l'alphabétisation a lieu en cyrillique. Donc aller maintenant au-delà, et ça participe de nouveau d'un discours nationaliste, donc identitaire, puisque l'alphabet cyrillique renvoie à une certaine unité de certains peuples slaves, des peuples slaves de l'Est. Donc ça nous rapproche de la Russie, de l'orthodoxie, en tout cas. Donc c'est comme ça que cela est présenté aussi dans le discours officiel.
Est-ce que cette volonté de défendre un alphabet spécifique, donc à une langue, le serbo-croate, qui était en tout cas une langue commune à toutes les entités de l'ancienne Yougoslavie, donc est-ce que ce phénomène se retrouve aussi dans les autres entités, dans les autres nations actuelles, comme la Croatie ou la Bosnie ?
Disons que, à l'époque de l'ex-Yougoslavie, la langue officielle pour la plupart des peuples yougoslaves, c'était bien le serbo-croate. En Slovénie, c'était le slovène et en Macédoine, c'était le macédonien. Mais les Serbes, les Croates, les Monténégrins et les Bosniens partageaient bien la même langue, donc le serbo-croate, et les deux alphabets étaient officiels. Lorsque la Yougoslavie a éclaté, les anciennes républiques devenues indépendantes ont adopté des mesures différentes. La Serbie, dans un premier temps, a bien protégé les deux et gardé les deux alphabets, l'alphabet cyrillique et l'alphabet latin. Donc il y a une loi assez importante, c'est cette loi-là qui devait être modifiée l'année dernière, une loi qui a été votée en 91 sur l'emploi des langues et des alphabets, qui protégeait bien les deux. La Croatie a choisi une option différente. Donc en Croatie, le seul alphabet officiel, depuis l'indépendance, c'est bien l'alphabet latin uniquement. Au Monténégro et en Bosnie, sur le plan officiel, les deux sont d'usage officiel. Donc la constitution monténégrine de 2007 protège bien et officialise les deux alphabets. Et c'est également le cas en Bosnie, en tout cas au niveau de l'État. Hein. Donc, parce que vous savez que la Bosnie est composée de deux entités, et là encore, la situation est différente, puisque la fédération croato-musulmane qui fait partie de la Bosnie a opté plutôt pour l'alphabet latin. Donc la situation est différente d'un pays à l'autre, mais l'idée derrière est assez semblable, c'est-à-dire donner une préférence à un alphabet plus qu'à un autre sur le plan officiel, si ce n'est pas au niveau de la Constitution, au moins au niveau d'un certain nombre de lois linguistiques.
Vous écrivez, Xenia Djordjevic-Leonard, vous écrivez dans un de vos articles que les alphabets sont devenus la cible des nationalistes. Est-ce que ça veut dire que le fait de promouvoir un alphabet différent, un alphabet spécifique, c'est une manière d'instaurer une distinction nationale dans une langue qui, autrefois, comme vous l'avez rappelé, était partagée par des nations différentes?
Oui, tout à fait. Donc ça, je l'écris essentiellement pour les années 90, puisque ces débats ont été particulièrement virulents au début des années 90, puisque ce qui a été mis en avant dans ce discours nationaliste, c'est surtout la force symbolique, on va dire, plutôt que communicative, puisque la langue n'a pas changé pour autant. Ça, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que les Serbes, les Croates, les Monténégrins, les Bosniens se comprennent toujours parfaitement et arrivent toujours très bien à lire dans les deux alphabets.
En 2017, un collectif d'intellectuels à la fois croates, serbes, bosniens et monténégrins ont lancé un manifeste, le manifeste de Sarajevo, pour rappeler que tous parlent la même langue, le serbo-croate, et alerter contre les tentatives de récupération nationaliste. Est-ce que cet appel a eu beaucoup d'écho? Est-ce que dans la population, on est réceptif à cette idée d'unité, ou bien est-ce qu'on est plutôt, on a plutôt tendance à cultiver au contraire les différences?
Non, je crois que d'abord ce manifeste, c'est une très bonne chose, donc il a eu beaucoup de succès, puisque depuis le début des conflits, les linguistes ont toujours eu, enfin la plupart des linguistes, ont toujours eu exactement le même discours, c'est-à-dire il s'agit bien d'une seule et même langue, et ça ne sert à rien de créer artificiellement des différences. Et donc que maintenant, presque 30 ans plus tard, d'autres linguistes, ou parfois ce sont les mêmes d'ailleurs, insistent encore sur cette idée-là, c'est déjà une très bonne chose. Après, je pense que la population est également réceptive à ce type de discours, puisque il n'y a, enfin, en tout cas de ce que j'ai pu observer, il n'y a aucune volonté dans la population, enfin, au sein de la population, de créer ou d'insister sur des différences. Alors, les différences entre les quatre variétés existent, elles sont tout à fait naturelles, puisque ça fait partie de l'histoire naturelle d'une langue. Il y a des variations régionales, ça peut parfois toucher le lexique, parfois la structure même de la langue, mais c'est normal. Toutes les langues connaissent la variation, et donc l'ancienne langue serbo-croate également. Et ce que ces linguistes disent, c'est que d'un point de vue linguistique, on a toujours bien une seule et même langue. Pour le reste, ça concerne la politique. You know what? I'm in a good mood today.
Well, I'm so happy. It's not yesterday. Oui, la lutte des alphabets, elle se joue aussi du côté de la Serbie. On entendait à l'instant Xenia Djordjevic-Leonard, maîtresse de conférence en sciences du langage à l'Université de Montpellier, au micro de Mélanie Chalandon. Un grand merci à nos deux invités, Mourad Souleymanov, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur nos questions du jour. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci également à Vincent Fourniaud, qui était en duplex de Limoges. D'ailleurs, je remercie le technicien Thierry Roufange, qui a permis de faire la liaison. Et je rappellerai, vous concernant Vincent Fourniaud, un livre qui vient de paraître aux Indes Savantes, Transformation soviétique et mémoire en Asie centrale, de l'indigénisation à l'indépendance. On mettra évidemment le titre de votre ouvrage sur la page de Culture Monde. 11h53.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On a le sentiment, Brice, en Europe, que la démocratie est menacée. Ce type de régime, historiquement, nous l'avons créé. D'où vient cette inquiétude, Brice?
L'écrivain Philippe Blom, auteur en français d'Une histoire intime des collectionneurs, écrit dans la revue de l'Institut für die Wissenschaften von Menschen de Vienne l'anecdote suivante. Récemment, en visite en Hollande, il interrogeait certains des ingénieurs chargés de veiller sur les barrages qui protègent le pays de la mer, comme on sait. « Nous sommes certains que le niveau de la mer va monter, » dirent-ils. « Dans les années à venir, il va nous falloir surélever le niveau des digues qui permettent l'existence de notre pays. Mais de combien ? 30 cm ? 6 mètres ? En réalité, nous n'en savons rien. » Alors Blom écrit « Ce qui menace la démocratie en Europe, c'est le sentiment partagé d'une imminente inondation. Tel est selon lui le climat moral qui domine en ce moment le sous-continent face à deux ruptures décisives, le changement climatique et la révolution numérique. De tous côtés, on redoute une grande marée dont on ne sait pas bien quelle forme elle pourrait prendre. Et c'est pourquoi l'image qu'utilisait Zygmunt Bauman, le capitalisme liquide, lui paraît particulièrement judicieuse. Pour les uns, c'est la vague populiste qui risque de balayer le continent. Pour d'autres, l'Europe risque d'être noyée par une vague migratoire. Certains encore redoutent d'être noyés dans la mondialisation, submergés par le commerce et les investissements chinois. Mais quelle que soit la forme qu'elle prend dans les esprits, c'est la peur qui s'y est installée et c'est un sentiment qui ne conforte jamais la démocratie, mais bien plutôt ses adversaires. C'est ainsi que de plus en plus d'électeurs se tournent vers les mouvements qui leur promettent de dresser des barrages face à ces vagues, dans le vain espoir d'éterniser la situation présente. Mais si certains historiens comparent notre époque aux années 30 du XXe siècle, Philippe Blom, lui, penche plutôt pour le petit âge glaciaire qui a frappé l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Il a consacré d'ailleurs un essai à cette période, traduit en anglais sous le titre « Nature Mutinity ». Il y développe la thèse selon laquelle la forte baisse des températures, en moyenne 2 degrés Celsius, en provoquant une perte de 3 semaines dans les récoltes en Europe, a forcé les sociétés à innover dans les méthodes agraires. En outre, ce défi climatique a poussé les esprits à rechercher les causes véritables des phénomènes physiques. On s'est alors détourné des explications théologiques. Les bases de la science moderne, du rationalisme et des Lumières auraient donc partie liée, selon lui, avec ce refroidissement des saisons. C'est pourquoi, paradoxalement, Blom place donc ses espoirs dans le fait que, face au réchauffement climatique cette fois, l'humanité renoue avec les pouvoirs de la raison plutôt que de céder au vertige des peurs irraisonnées. Il rejoint le camp de ceux qui plaident, comme le psychologue Steven Pinker, dont j'ai déjà parlé ici, pour une forte réaffirmation des Lumières.
Et puis Brice, dans la même publication, on trouve un son de cloche voisin, mais plus angoissé, sous la plume du politologue et diplomate serbe Ivan Vejvoda.
Les Européens, écrit-il, ont le sentiment d'être emportés dans un monde de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. Sans aucun doute, il y a eu une augmentation inquiétante des manifestations d'éclipse de la raison et un glissement vers le tribalisme et la politique des identités, écrit-il. Cela met en danger l'ordre démocratique libéral, basé sur le règne de la loi et les droits individuels de base. L'Europe a été profondément affectée par cette dynamique politique et sociétale. Les sociétés à présent nourrissent des peurs pour leur existence future. Le sentiment du moment dans le public est que l'ordre démocratique ne tient pas ses promesses en matière de sécurité et de protection. Il n'assure pas les conditions nécessaires à une existence décente et digne. Fin de citation. Alors ce désenchantement démocratique menace, selon lui, le projet d'intégration européenne, puisqu'aux yeux des citoyens des États centre-européens, l'Union européenne s'identifie précisément avec la démocratie libérale elle-même. Pour autant, poursuit Ivan Vejvoda, l'Union européenne demeure majoritairement populaire en Europe centrale et orientale. Il faut dire que le Brexit est une expérience grandeur nature des catastrophes qui attendent ceux qui seraient tentés de suivre l'exemple britannique d'une rupture avec l'UE. Et puis Donald Trump aussi, avec ses foucades et ses menaces, a bien contribué à ressouder contre lui les opinions publiques européennes. Mais ces réactions défensives ne suffisent pas à restaurer la légitimité de l'Union européenne ni la confiance envers la démocratie. Il faudra, dit-il, beaucoup d'efforts pour vaincre la méfiance envers les élites sociales, les experts, Bruxelles, perçue par beaucoup de gens comme étrangers à leurs propres préoccupations qui s'est développée ces dernières années.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Bientôt sur notre antenne, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.